Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord, parce que je trippe sur le sujet simplement, puis deuxièmement, parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée de nutritionniste que j'adore, qui collabore avec moi, Sabrina Lamar, qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente saison. Bonne écoute! Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 19. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélissa Larivière et Sabrina. Donc, salut Sab, pour commencer.
Salut Vanessa, comment ça va?
Ça va super bien, merci. On enregistre un lundi matin, d'habitude, on est comme toujours vendredi PM, là. C'est comme pas la même énergie, fait que ça va très bien. Et toi, ça va?
Oui, ça va très bien, merci.
Cool. Puis Mélissa Larivière, qui est maintenant nutritionniste spécialisée dans l'alimentation des tout-petits. Salut Mel!
Bonjour!
Bonjour, on se retrouve. On se connaît de longue date, mais on a travaillé ensemble au début de ma carrière, mais maintenant on a pris des chemins différents. Donc Mel, avant qu'on aille plus loin, écoute, je vais te laisser te présenter. Là, j'ai dit spécialisée en nutrition des tout-petits, mais c'est assez vague. Fait que peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bien, évidemment, tu es nutritionniste, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Puis qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans la nutrition famille?
Oui, ben en fait, moi, ça fait, tu l'as dit, là, on s'est connus dans ton début de carrière à toi, mais moi, ouais. J'ai commencé, ça fait déjà plusieurs années. En fait, là, ça fait 15 ans que je suis nutritionniste. Puis les 10 premières années de ma carrière, c'est principalement auprès de la clientèle adulte que je travaillais, vraiment en nutrition générale, là, parce qu'on ne se le cachera pas beaucoup, perte de poids, diabète, cholestérol et tout ça. Et je suis aussi, entre-temps, devenue maman. Donc, j'ai des grandes filles maintenant, là, des jumelles de 10 ans. Mais quand je suis devenue maman, c'est sûr que là, l'alimentation plus enfant, famille m'interpellait un petit peu plus. Par contre, ça m'intimidait aussi beaucoup. Là, on s'entend, on en parlait un peu vite avant, mais on ne voit pas ça à l'université, tout ce qui est nutrition plus pédiatrique. Donc, tu sais, je me renseignais pour ma propre famille et mes propres filles, mais j'allais pas vraiment plus loin. Et au fil du temps, je commençais à chercher un petit peu comment garder, maintenir le plaisir de faire mon travail de nutritionniste parce que j'adorais ça, mais je voyais que tranquillement, je me lassais un petit peu. Là. Puis ça avait rien à voir avec ma clientèle. Là. C'est vraiment que j'avais comme besoin de trouver autre chose. Puis c'est en 2018, fait que ça va bientôt, en fait, ça fait 5-6 ans là, que j'ai vraiment fait tranquillement un petit virage là, en nutrition pédiatrique. J'ai commencé à avoir davantage cette clientèle-là. Je prenais pas tous les cas, bien entendu, parce que je n'étais pas à l'aise, puis je me formais en même temps dans tout ça. Puis en 2020, ça a été vraiment le gros déclic. Là. J'ai eu un gros, tu sais, c'est un peu là que toute la culture des diètes a commencé à émerger. Puis là, moi, j'ai eu une grosse remise en question professionnelle. Puis la pandémie est arrivée. Puis c'est là que j'ai un peu pas tout laissé tomber, mais vraiment tout ce qui est clientèle adulte, j'ai arrêté et j'ai lancé, dans le fond, J'aime Love Nutrition, qui est comme mon moi, là, mes services de nutrition. Et je me suis aussi greffée, ça fait un an, là, ça fait un an au mois de mai, à l'équipe des nutritionnistes en pédiatrie. Fait que mon quotidien maintenant, là, c'est uniquement la clientèle 0-17 ans. Je vois quand même encore les futurs et les nouvelles mamans parce que pour moi, c'était quelque chose quand même qui va ensemble. Basé toujours sur l'alimentation intuitive, l'image corporelle beaucoup, là, j'en parle, c'est toujours derrière toutes mes recommandations. Et mon quotidien maintenant, c'est des services en ligne, donc la consultation en ligne, des conférences aussi, des fois, que je vais donner en ligne. Puis j'ai aussi, on a aussi notre balado, là, moi et Cosette, ma collègue des nutritionnistes en pédiatrie, qu'on a débuté, ça va faire un an, là, au mois de septembre. Donc, mais je travaille de la maison principalement, service en ligne, là, famille et future et nouvelle maman.
Très cool. Le travail de la maison, beaucoup plus facile pour la conciliation, travail-famille. Ouais. Puis là, Mel, faut que tu nous dises. Ton histoire est hot. Toi, t'as eu deux jumelles, first. Ça faisait combien de temps que t'étais avec ton chum?
Ah, mon Dieu! Ça faisait 8 mois qu'on était ensemble quand j'ai appris que j'étais enceinte, puis ça faisait 1 mois qu'on avait aménagé ensemble. Imagine quand j'ai su que j'étais enceinte, puis 2 mois après, on a su qu'il y avait 2 bébés. Plein de surprises, mais aujourd'hui, on est encore ensemble. Nos grandes filles vont se parler. Ouais. Puis,
ils sont mariés. Bravo.
Oui, on est mariés, exactement. Depuis, ouais, ça aussi, la pandémie a changé. Mariage ça, mais pandémie. Oui, on s'est mariés en finalement un petit mariage bien intime le 10 octobre 2020.
Oh. Fait que aujourd'hui, dans le fond, moi, je t'ai approchée parce que je voulais parler d'un sujet qui pique ma curiosité. Je te dirais un sujet aussi que je connais quand même assez peu. Moi aussi, j'ai commencé à faire de plus en plus de la nutrition pour les enfants, mais vraiment plus les tout petits, là, ceux avec lesquels je me sens à l'aise, donc plus l'introduction des solides et les choses qui joignent un peu ce sujet-là. Mais les plus grands, je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, puis je vois ma sœur un peu être dans ce sujet-là, puis vivre certains défis par rapport à l'alimentation, puis les jeunes qui sont jeunes, mais qui des fois ont des discours qui peuvent être surprenants là, à leur âge. Ouais. Et que j'avais envie qu'on parle de comment qu'on jase d'alimentation à nos enfants, c'est quoi les bonnes pratiques, puis qu'on fasse aussi un peu le lien, encore une fois, avec le poids, c'est-à-dire des fois, étonnamment, assez jeunes, les enfants sont préoccupés par l'apparence corporelle, puis ils peuvent nous sortir des affaires spécial par rapport au poids. Puis des fois, ça vient d'eux. Puis d'un autre côté, des fois aussi, c'est de la part de parents qui peuvent être super bienveillants, mais qui peuvent s'inquiéter peut-être d'une prise de poids d'un enfant ou s'ils comparent, par exemple, avec d'autres enfants, si on a l'impression que notre enfant est un peu plus gros que les autres, s'il est plus gros que ce qu'on que sa courbe de croissance, par exemple, si sa courbe de croissance évolue à la hausse, on peut s'inquiéter en tant que parent, mais comment qu'on réagit par rapport à ça, si on ne veut pas justement inculquer des préoccupations par rapport à l'estime de soi. Donc, c'est ça. Je mets la table avec, avec ça. Mais je pense que je vais laisser ça lancer la discussion là, pour qu'on rentre directement dans le sujet.
Oui, parfait. En fait, pour débuter, quand on a des enfants ou qu'on côtoie des enfants ou qu'on travaille avec eux, de quelle façon est-ce qu'on peut aborder l'alimentation? Est-ce que c'est pertinent de parler de la qualité des aliments? Puis, tu sais, de comment qu'on introduit ça sans introduire des aliments bons ou mauvais ou avoir une mauvaise, une influence sur le futur là, de l'enfant?
Bien, en fait, c'est certain que, puis tu l'as dit, Vanessa, là, tout dépendant de l'âge de l'enfant. Puis là, tu l'as dit, moi, je suis plus à l'aise avec les plus petits. Tu sais, ton Antoine, il est tout petit, fait que c'est normal aussi que, tu sais, ce soit... Moi, les miennes, ils sont plus grandes aussi, puis c'est vraiment là, quand les miennes ont atteint le 8 ans, là, le 8-9 ans, puis là, j'ai vu le corps commencer à changer. Puis là, moi, mes propres préoccupations de maman, de nutritionniste, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là vraiment que j'ai encore plus été... me former pour tout ce qui est image corporelle, relation avec la nourriture. Et en effet, comment est-ce qu'on parle des aliments? Est-ce que c'est pertinent de parler de valeur nutritive, d'expliquer le sucre, le gras? Bien là, c'est très variable selon l'âge. Pour moi, âge primaire, c'est zéro pertinent de parler de valeur nutritionnelle parce que par rapport au développement du cerveau de l'enfant, il sera pas capable, lui, de distinguer. Tu sais, si on dit « Ah, mais il faut pas que tu manges trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. » Ouais, mais ça veut dire quoi, trop de sucre? Puis c'est quoi, pas bon pour la santé? Ça veut-tu dire que je vais vomir? Ça veut-tu dire que, tu sais, je veux dire, lui... commencer à essayer de prévenir des choses au niveau de la santé, c'est très, très abstrait dans leur tête. Fait que on n'a pas besoin d'expliquer à un enfant « ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas bon pour toi ». On a besoin, d'être un modèle pour eux. Si on veut quand même pouvoir développer des saines habitudes de vie aussi, bien, on va être un modèle, oui, mais on va beaucoup passer par le plaisir de la découverte des aliments. Fait que si vous voulez parler justement, puis vous voulez que vos enfants apprennent à aimer puis à manger des légumes, c'est pas en leur disant que oh, c'est important de manger des carottes, ça va être bon pour tes yeux. On peut le dire, là, c'est pas, mais je veux dire, pour l'enfant, comme je disais, lui, c'est bon pour mes yeux. Il voit pas, tu sais, je veux dire, il fera pas de lien dans son cerveau, mais de faire un jardin, de lire des livres qui vont expliquer l'histoire de la carotte, les différentes sortes de carottes, après ça, on peut cuisiner avec la carotte, ben, il développe une relation avec la carotte, puis ultimement, ben, il va apprendre à l'aimer. Donc, je vais avoir beaucoup plus d'impact sur le long terme en lui faisant découvrir les aliments dans le plaisir, en cuisinant. Nous, on parle beaucoup fait de découvrir les aliments en dehors des repas, justement. C'est pas juste à l'heure du repas que votre enfant y apprend, là. Il va écouter une émission de télévision. Il y a plein de livres qu'il y a certains personnages. C'est des fruits, c'est des... Puis là, je dis fruits, légumes, ça peut être un cupcake, ça peut être un biscuit, hein. Mais c'est juste parce que là, si on pense à saine alimentation, c'est souvent les aliments qui vont nous venir. Mais, tu sais, des fois, j'entends les gens, puis « Ah, oh, mon Dieu, mais ça devrait être enseigné à l'école, au primaire. » Non, parce que, comme je disais, dans le cerveau de l'enfant, il n'y aura pas nécessairement le jugement critique. Puis l'enfant qui vit peut-être dans une famille qui n'a pas les moyens, eux, de manger des fruits puis des légumes, puis là, qui se fait dire à l'école, c'est important, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, mais cet enfant-là, il va se sentir comment? Parce que, oh mon Dieu, mais moi, je vais avoir un problème de santé. Puis là, tu sais, dans sa tête, là, comme je disais, il n'y a pas tout encore le cheminement puis la reconnaissance pour être capable de recevoir cette information-là. Et ça, c'est une des raisons aussi, là, tu sais, je disais tantôt, moi, je travaille en ligne, mais je travaille en bas de 12 ans, je ne vois jamais les enfants en consultation. Peu importe la raison de consultation, je ne les vois pas, surtout pas la première rencontre, pour la simple et bonne raison que c'est le parent qui va être le modèle dans tout ça, et c'est le parent qu'on veut venir outiller. À partir de l'âge secondaire, là, encore une fois, ça va dépendre la raison de consultation. Ça dépend toujours aussi un peu l'intérêt. Puis, tu sais, des fois, je vais quand même juste rencontrer les parents au départ, là, puis après ça, je vois si on inclut le jeune. Quand ils sont plus vieux, là, c'est sûr que je dis, ouais, j'aimerais ça qu'ils soient là parce qu'on le sait qu'il y a une autonomie qui est davantage là. Mais avant ça, au primaire, l'enfant, c'est pas lui qui décide qu'est-ce qui rentre à la maison. C'est pas lui qui fait les achats. C'est pas lui qui planifie les repas. C'est le parent. Donc, nous, on veut venir outiller les parents justement pour qu'ils puissent intervenir sans nuire. Mais si on revient au côté valeur nutritionnelle, j'ai pas besoin de donner un cours de nutrition à l'enfant. Mm-hmm. On veut, puis moi, je le dis, mettez le plaisir de l'avant. Tu sais, des fois, je vais dire, OK, je leur donne des feuilles de collation, puis OK, trouvez-vous des idées de collation. Puis là, le but, c'est pas de dire, hey, il faut que tu mettes une glucide avec une protéine. Le but, c'est de dire, on fait des combinaisons. Fait que, OK, tu vas avoir une pomme. Avec quoi on met ça? Une banane. Non, mais c'est encore un fruit. Attends, on va essayer de trouver un autre aliment. Fait que, tu sais, on va le faire comme ça, mais sans que ce soit justement des règles. Puis, oh, il faut que tu manges ça, puis c'est important. Ça va faire grossir tes muscles. Ça, c'est bon pour tes os. Tu sais, c'est de l'information, comme je disais, qui est quand même, on peut leur dire, mais ultimement, ils n'ont pas besoin de tout savoir ça. Même nous, comme adultes, là, on en reçoit trop de l'information nutritionnelle, puis ça nous mêle. Mmh. On a de la misère, nous, à départager qu'est-ce qui est vrai, qui n'est pas vrai. Fait qu'imagine un enfant de 5-6 ans qui, à l'école, va se faire dire par son professeur, « Hey, c'est pas bon, il ne faut pas manger trop de sucre. » Hey, il revient à la maison après ça, puis « Maman, le professeur, elle a dit qu'il ne fallait pas que je mange trop de sucre. » Oh, OK. Et toi, t'en penses quoi? Ça, c'est un autre point qui est important aussi. On a parlé, tu parlais du poids, mais si jamais vos enfants aussi vous arrivent avec des choses comme ça. Ouais. Ah, moi, j'ai entendu ça. Tu sais, là, on passera pas sous... Tu sais, je veux dire, le sucre, puis à l'école, là, on pourrait faire un autre épisode de podcast au complet, mais c'est une des choses que vos enfants peuvent arriver, puis « Hey, j'ai entendu ça. » Puis, ils peuvent vous poser des questions. Bien, soyez curieux et demandez-leur. Ah oui? Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis, allez pas plus loin que où ils sont. Ils vont avoir une interrogation. À partir du moment où vous répondez à leurs questions, eux, ils vont être bien contents. Puis après ça, parce que des fois, de commencer à expliquer, « Ah oui, mais tu sais, le sucre... » Là, comme je dis, on les perd, là. Fait que des fois, faites juste demander. « Mais toi, comment, tu sais, tu t'es senti comment quand t'as entendu ça? Qu'est-ce que toi t'en penses? Puis est-ce que tu penses vraiment que le sucre, c'est... Puis là, après ça, selon vos valeurs familiales, vous pouvez justement venir recadrer un petit peu le discours pour venir justement rassurer l'enfant avec ce qu'il vient de recevoir comme information à l'école. Puis je dis à l'école, mais ça pourrait être dans un cours de danse au hockey ou peu importe.
Ah, même les amis, des fois, ils en disent...
Oh oui, oui!
Puis ça m'a fait émerger une question là, que je vais ajouter, en fait. Tu sais, tu dis qu'on doit servir de modèle en tant que parent, puis j'y crois fortement, mais dans le contexte où le parent a d'entrée de jeu soit une relation qui est mauvaise avec la nourriture, ou tu sais, on connaît tous des gens qui n'aiment pas du tout les légumes, là, puis qui sont comme, oh, moi, je déteste les légumes, je ne suis pas capable d'en manger, mais je ne veux pas que mon enfant soit comme ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec un parent qui, lui, a peut-être peut-être une problématique en lien avec la nourriture, mais qui ne voudrait pas transmettre ça à son enfant.
Oui, bien en fait, habituellement, puis ça arrive en effet, là, des fois qu'un des deux parents, ou « Ah, bien là, tu sais, c'est parce que moi, mon chum, il ne mange pas de légumes, fait que je sais que ce n'est pas un bon exemple. » Puis des fois, je vais regarder, tu sais, votre conjoint ou votre conjointe, là, peu importe ça vient de qui, c'est, je veux dire, ça lui appartient. Est-ce que automatiquement on va le transmettre à l'enfant? Non. Il faut peut-être venir ajuster vos attentes aussi. Moi, je me souviens, une cliente, à un moment donné, tu sais, est un peu, pas désespérée, mais tu sais, sa fille ne mange pas de légumes, en fait, c'est les fruits. Puis elle a dit, mais tu sais, elle a dit, nous, on n'en mange pas des fruits. Là, j'ai dit, ben là, tu sais, ajustez vos attentes à ce moment-là parce que ça se peut que ça va peut-être être plus long pour votre fille d'apprendre à aimer les fruits, justement, parce que, puis encore une fois, on se tape pas dessus comme parent, là. Le but, c'est pas d'être le parent parfait, puis de, on va nous aussi, au travers de nos enfants, venir travailler cette relation peut-être-là plus malsaine avec certains aliments. Puis des fois, je le dis, bien, profitez-en donc pour vous aussi les redécouvrir, les aliments, avec vos enfants. Ça se peut que vous n'avez pas appris à aimer les légumes, bien, profitez-en avec votre enfant, puis faites-le ensemble, puis dites-lui à votre enfant, « Moi non plus, ça, j'aime pas ça. Mais je vais essayer d'apprendre à l'aimer avec toi, parce que c'est un apprentissage, apprendre à accepter puis à aimer les aliments. » Là, c'est pas l'enfant à 4-5 ans, ça y est, c'est fait. Ben non, ajustez vos attentes, parce que ça va être long avant qu'il apprenne. Puis il va avoir des phases que, bon, ça, il l'apprécie plus. D'autres phases, tout d'un coup, il l'apprécie, tu sais. Ils n'ont plus envie d'en manger, c'est juste tout à fait normal aussi. Mais profitez-en, vous, comme parents, pour justement dire, bien, je vais refaire le cheminement avec mon enfant. Est-ce que ça veut dire justement que parce que j'ai jamais appris à faire du vélo, que mon enfant ne pourra jamais apprendre à faire du vélo? Ben non. Je vais peut-être, tu sais, je ne serai peut-être pas le modèle au début, puis on va aller chercher de l'aide, mais vous allez être quelqu'un qui est un super allié pour eux. Fait que c'est la même chose au niveau, si on parle d'apprendre, comme je disais, à ajouter des aliments. Pour ce qui est de la relation plus malsaine avec certains aliments, ben là, il faut que vous gardiez en tête qu'il y a une partie qui vous appartient à vous. Et on va en effet essayer de faire attention de ne pas nécessairement le transmettre à l'enfant. Fait qu'encore là, si c'est, tu sais, que la part des aliments plus sucrés, puis que ce soit des croustilles, en même temps, vous n'aurez peut-être pas vraiment le choix de faire ce travail-là parce que les enfants ne sont pas fous, puis ils vont remarquer à un moment donné que « Maman, quand on va à la crèmerie, elle ne mange jamais de crème glacée. Pourquoi, maman, tu ne manges jamais de crème glacée? » Puis là, c'est là qu'on se fait un peu, puis on fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui répondre la journée où il va me dire ça? » Fait qu'on se prépare, mais on peut, comme je disais, avec nos enfants, moi, je trouve que c'est justement ce qui est le fun, c'est que même le parent peut, au travers de son enfant, réapprendre justement à développer une relation saine avec tous les aliments, puis de le faire, oui, pour l'enfant, mais de le faire aussi pour eux. On a comme une motivation de plus là, quand on voit nos enfants. Puis comme tu dis, on veut pas, on espère idéalement pas leur transmettre ça.
Oui, mais c'est comme une belle opportunité. Souvent, soit la grossesse ou l'arrivée des enfants aussi pour se remettre en question soi-même. Puis plusieurs le font aussi en lien avec l'alimentation. J'ai eu quand même quelques femmes enceintes qui étaient comme « OK, là, je suis enceinte, il y a quelqu'un d'autre qui dépend de mon alimentation, mais je veux revoir voyons, je cherche mes mots aujourd'hui. Je vais revoir mon alimentation finalement. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, ça vaut la peine d'en profiter pour faire ce cheminement-là aussi en lien avec l'enfant. Puis, pour aller de l'avant justement avec la problématique du poids. Puis, on disait des fois, tu sais, il y a oui, ce que nous, on va dire à la maison, mais aussi ce que les autres vont dire à l'extérieur. Puis, par rapport à ça, dernièrement, la semaine dernière, en fait, j'étais chez un de mes proches, puis avec mon petit gars qui a 14 mois, là, puis de ce temps-ci, il mange comme en fou, là, ce que moi, je trouve exceptionnel parce que c'est difficile. Puis, la personne qui a toujours une relation difficile avec son poids dit « Ah, ben là, si tu continues de manger comme ça, tu vas finir par être grosse comme moi. » Tu sais, moi, je me dis « Oh, mon Dieu, que c'est pas le genre de commentaire que je veux que mon gars y entende. » Ouais. Comment qu'on réagit à ça? Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit adresser? Ou, en fait, je pense qu'on peut pas protéger nos enfants de tout ce genre de commentaires-là.
Non, en effet, tu le dis, on ne pourra pas les mettre dans des bulles. Puis bien entendu, tout dépendant aussi l'âge des enfants. Là, comme là, moi, quand on entend des discours comme ça venant, puis là, tu l'as dit, là, souvent, il va y avoir un souper, puis là, il y a quelqu'un qui va dire « Mon Dieu, mais tu sais, j'ai tellement mangé, il va falloir que j'aille courir demain. » Puis là, on pourrait en trouver des exemples. Là. Tout dépendant l'âge de l'enfant, là, c'est sûr qu'on peut venir réadresser le commentaire, tu sais, à la personne qui l'a dit de façon le plus bienveillante possible. Le but, c'est pas de commencer à chicaner, là. Mais des fois, tu sais, où on peut prendre la personne à part. Mais des fois, on n'a pas nécessairement envie d'embarquer là-dedans non plus. Fait que moi, des fois, ce que j'aime bien dire, encore une fois, puis comme je disais, selon l'âge de l'enfant, des fois, on peut juste venir faire un petit retour aussi. Là, comme je dis, tu sais, je veux dire, avec Antoine, il est tout petit, là. Fait que lui, tu sais, je veux dire, il va l'avoir entendu, mais ça sert à rien. Mais quand ils sont un peu plus vieux, ça vaut la peine, des fois, de faire, est-ce que t'as entendu tantôt qu'est-ce que, ou tu sais, tu te souviens-tu quand elle a dit ça? Non? Bon, parfait. Tu sais, je veux dire, si, tu sais, je veux dire, ça veut dire qu'il l'a pas enregistré. Si, par contre, là, oui, c'est vrai, puis tu sais, ben là, encore une fois, comme je disais, toi, t'en penses quoi? Puis après ça, on vient recadrer tout le côté poids. C'est important de l'adresser quand même avec les jeunes enfants. D'un, tu l'as dit, les préoccupations à l'égard du poids, ça commence très, très jeune, puis ça commence à l'âge de 3-4 ans. Que puis je veux dire, les enfants ne seront pas nécessairement à dire des commentaires sur leur poids, mais il y a des études qui avaient été faites justement où on montrait des images de différents enfants de différents formats corporels chez des jeunes enfants, et quand on leur demandait avec lequel tu voudrais être ami, ben les enfants qui avaient un corps gros, ben c'est souvent ceux justement qui étaient laissés de côté. Fait que c'est montré à quel point ça fait déjà partie, justement, même quand ils sont tout petits, même si on essaie de les protéger. Et quand ils sont petits comme ça, on va pas nécessairement venir parler de tout ce qui est de l'image corporelle. On va beaucoup venir travailler sur tout ce qui est estime de soi. Mm-hmm. Fait que parce que veut pas, l'image corporelle fait partie de l'estime de soi, mais on veut pas nécessairement venir accorder trop d'importance au poids. Mais moi, la façon que je dis toujours aux parents, là, c'est de venir valoriser et normaliser la diversité corporelle. De venir apprendre à vos petits-enfants, déjà quand ils sont tout petits, c'est normal, il y a des amis qui sont plus grands, qui sont plus petits, il y en a des plus gros, il y en a des plus minces, des plus minces, il y en a qui ont les cheveux blancs, il y en a qui ont les cheveux bruns, bruns et blancs, si ça se avec les bruns matin. Mais c'est important de venir le normaliser dès qu'ils sont petits, de venir leur faire remarquer quand ils grandissent aussi, quand ils écoutent des émissions. Moi, je le fais beaucoup avec mes filles, là. Des fois, ils écoutent des émissions, puis je dis, avez-vous remarqué les filles? Les petites filles sont toutes, ils ont toutes le même corps. Puis là, ils font, ah oui, c'est vrai. Puis là, maintenant, des fois, ils écoutent des émissions, puis ils font, maman, regarde, regarde, ils ont tous des corps différents. Ou des fois, ils l'écoutent, puis au contraire, ils font, ah oui, là, je sais, maman, tu sais, ils ont tous les mêmes corps, mais puis là, je dis, garde, c'est correct, tu sais. Moi, je peux pas leur empêcher d'écouter quelque chose parce qu'il n'y a pas de diversité corporelle, mais de leur en faire prendre conscience parce qu'ils sont constamment exposés à ça. Puis on le voyait, là, sur les réseaux sociaux dernièrement, tu sais, toutes les princesses de Disney, là, je veux dire, c'est un peu toute la même forme, les méchants dans les films, c'est... Fait que, tu sais, même si c'est pas nécessairement dit propre, tu sais, je veux dire, dans leurs yeux, à quoi ils sont exposés, c'est ça. Fait que nous, on veut essayer, justement, puis il y a des beaux livres, maintenant, qui se font là-dessus, sur tout ce qui est diversité corporelle, pour venir normaliser tous les corps. Parce que c'est pas vrai que, même si c'est un enfant, que parce qu'il est dans un corps gros, son corps est un problème à régler. Puis à partir du moment où l'enfant intègre que son corps est un problème, si on parle d'un enfant des fois de 4, 5, 6 ans qui s'est fait dire chez le médecin parce qu'il a entendu des commentaires, toute discussion sur le poids ne devrait pas se faire devant les enfants chez le médecin, mais bon, on le sait que ça arrive quand même, puis les enfants, là, je veux dire, ils entendent tout ça, ils prennent tout ça, puis là, ça vient affecter justement leur estime de soi, puis ça a beaucoup plus d'impact ultimement sur leur santé que le poids à la base. Donc, oui, on essaie de les protéger de ça en venant diversifier les sources d'estime de soi, en venant mettre de l'avant justement toutes leurs qualités, tout ce qu'ils font bien, toutes les fonctions de leur corps aussi. Ton corps, il te permet de faire tes cours de danse, ton corps, il te permet de faire la natation. Mais encore une fois, on va répondre à leur interrogation. Un enfant qui arrive puis qui me dit « Maman, je suis grosse », bien, premièrement, c'est qu'est-ce qui serait la première chose qui vous viendrait? T'sais, souvent, on va penser, qu'est-ce qu'on va répondre à notre enfant qui nous dit ça? Je ne sais pas à quoi vous pensez, là, mais...
Pourquoi, Vanessa, tu dirais quoi, Antoine?
Ben, Antoine, 14 mois, je te dirais, ben voyons, mon amour, pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit ça? Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui t'a mis ça dans la tête? Tu sais, d'où ça sort, finalement?
Ouais, c'est dur à avoir en lien avec le contexte, là, mais ouais, je questionnerais l'enfant, clairement, puis tu sais, ça se peut que physiquement, il soit plus... gros que les autres aussi. Ouais. Je veux dire, faut pas, je faudrait peut-être peux pas lui dire, ben non, c'est pas vrai, là, parce que...
Mais en fait, c'est que souvent, la réaction qu'on va avoir, puis là, je l'ai dit avec un enfant, mais même un ami nous dit, ah, oh, mon Dieu, tu sais, je me sens grosse ou je suis grosse. Puis là, tout de suite, la première chose qu'on dit, c'est, ben non. Mm-hmm. Mais oui, mais la, de un, tu l'as dit, là, Sarah, tu sais, si l'enfant est dans un corps gros, là, ben oui, t'es gros. T'es faite comme ça. Puis il y a rien. Mais non, mais, non, mais c'est vrai, tu sais, s'il me dit, maman, je suis petite. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est
pas pareil. Je le sais, mais.
C'est un réflexe qu'on a.
Le corps est plus gros. Mm-hmm. Et, mais tu sais, c'est ça qu'on veut venir normaliser. Parce que, tu sais, avec les adultes, on va le dire, on prendra pas pour acquis, on essaie de changer ce discours-là. On prendra pas pour acquis qu'avec un adulte, parce que la personne est dans un corps gros, que je vais lui dire, ouais, mais t'es grosse. La personne est peut-être pas encore prête. C'est ça. Fait qu'on va toujours le demander. Mais moi, je me dis, avec les enfants, encore une fois, je vais venir lui expliquer. Puis là, comme je vous disais, il y a des super de beaux outils pour venir parler de ça, là. Mais quand il va recevoir des commentaires ou s'il fait juste nous dire, ben, tu sais, je suis gros, comme je disais, si c'est le cas, ben, ça se peut qu'on va dire, ben oui, c'est vrai, t'es gros. Comme je dirais, ben oui, c'est vrai, t'es plus grand que tes amis. Puis c'est vrai, t'es plus petit que les autres amis. Mais tu sais, ton corps, encore une fois, son corps, il a des fonctions. Puis son corps, il va faire ce qu'il a à faire, là.
Mais tu sais, Mel, moi, je comprends vraiment, là, ce que tu veux dire. Puis tu sais, toi, puis moi, puis Sab, on est formés, c'est notre job. Mais je suis convaincue qu'il y a 95% des gens qui nous écoutent qui font comme, ben non, je peux pas y dire ça, tu sais. Parce qu'on n'est pas rendu là comme société, même si on veut normaliser ce message-là, puis que gros, c'est correct, tu sais, c'est un qualificatif comme grand. Je pense qu'il y a encore beaucoup de job à faire, tu sais.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai
ri. Non, t'as raison.
T'es gros, mais tu sais, j'ai ri parce que je suis convaincue que le monde qui vont écouter vont faire, ben voyons.
Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est venir, tu sais, comme je disais, si l'enfant est dans un corps gros, c'est venir valider comme je validerais le fait qu'il est plus petit ou qu'il est plus grand ou que les. Tu sais, parce que, ultimement, après ça, je vais aller voir, tu sais, oui, là, je vois que ça semble te déranger. Pourquoi? Est-ce que tu as reçu des commentaires? Est-ce que, puis si jamais ça arrive, parce que. Veux pas, nous, encore une fois, quand les parents viennent nous voir aussi parce que leurs enfants vont se situer dans le haut des courbes, ben, ils vont venir nous voir parce qu'ils veulent venir prévenir. Puis souvent, les parents ont vécu ça aussi parce que, veux pas, une grosse partie de la génétique qui se transfère. Fait que, tu sais, les parents qui sont dans des corps gros, souvent l'enfant aussi peut être dans un corps gros. Puis des fois, pas toujours, là, en tout dépendant quand on est ou dans le stade de développement aussi. Fait que là, c'est de venir, comme je disais, normaliser le fait que, oui, ça se peut que tu sois plus gros que tes amis, mais après ça, c'est d'aller voir plus loin parce que l'enfant est en train de, en effet, peut-être vous dire qu'il se sent pas bien, comme quelqu'un qui va me dire « je me sens gros ». Être gros, c'est pas un sentiment. Être gros, c'est, je veux dire, c'est objectif. À partir de quand est-ce qu'une personne est grosse, ben là, c'est pas à moi nécessairement de juger, là, mais reste que, comme je dis, à un moment donné, tu sais, à partir de quand est-ce qu'une maison est grosse, à partir de quand est-ce qu'une auto est grosse, ben là, on va peut-être pas toutes se rejoindre, là, mais tu sais, ça reste que c'est ce principe-là quand parce même.
On s'entend qu'il y a plein de personnes minces qui se sentent grosses.
Mais c'est ça, mais c'est un sentiment. Alors, c'est là que, avec vos enfants, allez creuser. Parce que, comme je vous disais, tu sais, des fois, ça va être, ah, puis ça, tu sais, un enfant qui fait, ouais, moi, je suis gros, puis, tu sais, je veux dire, moi, je rêve de ça, là, que, ben oui, moi, je suis faite comme ça, puis on passe à autre chose. C'est ça qu'on veut ultimement. Mais comme je disais, tout dépendant l'âge, tout dépendant comment c'est dit, si on voit que l'enfant, il nous dit ça, puis qu'il n'est pas bien avec ça, aller creuser, là, il se passe quelque chose à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec son extérieur, ça a tout à voir avec son intérieur et c'est pour ça qu'on va venir poser des questions, est-ce que tu as eu des commentaires, est-ce que tu as été témoin de quelque chose aussi, parce que peut-être qu'il a été témoin d'un enfant qui a eu des commentaires à l'égard de son poids à l'école, puis là, ben là, lui, il fait « Oh, attends un peu, mais là, moi aussi, j'ai un petit bedon, peut-être que là, puis là, il peut avoir peur. » Fait que, tu sais, si je ne vais pas creuser plus loin, mais votre enfant qui vous dit justement « Maman, est-ce que je suis gros? » Comme tu disais tantôt, ben là, comme je disais, ça dépend toujours dans quel corps il est, mais après ça, c'est « Ben, pourquoi tu me poses cette question-là? » Puis, tu sais, oui, c'est vrai que t'es plus gros, puis t'es plus grand. Tu sais, là, on peut venir valider ça, mais allez voir pourquoi il vous pose cette question-là. Parce que c'est pas juste « Maman, est-ce que je suis grand? » Ou, tu sais, souvent, là, ça va, c'est plus profond, puis là, ça vaut la peine d'aller jaser, puis... Moi, le livre que j'adore pour venir jaser de ça avec les jeunes enfants, là, entre 6 et 12 ans en particulier, mais même un petit peu plus jeune, c'est les livres de Marie-Michèle Ricard, puis c'est en particulier le « Emma n'aime pas les moqueries », parce que c'est exactement ça. Emma, elle va subir des commentaires à l'égard de son poids, elle revient chez elle, puis de la façon que ça sort, c'est un gros plein d'émotions, là, mais ça donne des outils aux parents, ça donne des outils aux enfants, c'est vraiment des petits bijoux, là, pour venir discuter de ça, parce qu'on est dans une société où même nous, comme adultes, c'est encore très, très, très... touché d'une certaine façon, on cherche un peu nos mots, comment est-ce qu'on le dit, mais comme je disais, avec nos enfants, il faut venir le normaliser, puis il faut venir essayer de comprendre ça vient d'où, puis ultimement, si l'enfant n'est pas bien avec ça, c'est pas en essayant de changer son corps ou tout, on va s'inscrire à un sport où on va faire attention, on va essayer de manger mieux, c'est pas ça que votre enfant a besoin, c'est à l'intérieur qu'il se sent pas bien, là. Fait qu'il a besoin, justement, de se reconnecter avec vous, puis comme j'expliquais, de trouver des activités qui, dans son quotidien, vont venir le valoriser autre, puis son corps va devenir un peu accessoire, là. Parce qu'on le sait, chez les enfants, là, l'image corporelle qui est saine, donc un enfant, comme je disais, que, tu sais, je veux dire, son corps lui permet de faire plein de choses, mais qu'il n'y a pas une préoccupation qui s'installe, qui est trop grande, qu'il n'y a pas d'insatisfaction corporelle, c'est la porte d'entrée vers les saines habitudes de vie. C'est un enfant qui va prendre du plaisir à bouger, qui va prendre du plaisir à manger de tous les aliments, qui va être capable, d'un point de vue émotionnel, de se développer selon son stade de développement aussi. Tu sais qu'au niveau du sommeil, mais après ça, tu sais, toutes les autres problématiques, anxiété et tout ça, ça peut être associé à une faible estime. Puis la faible estime peut partir du fait que, ben, depuis qu'il est petit, cet enfant-là se fait stigmatiser à l'école ou dans sa famille. Puis des fois, c'est pas pour mal faire, mais c'est parce que, justement, on associe que le corps est un problème puis qu'il faut essayer justement de le régler là, avant qu'il devienne un adulte. Puis là, ça, selon moi, on fait beaucoup plus de tort qu'on fait peut-être de bien à nos petits cocos dans ce temps-là.
Mm-hmm. Fait qu'il faut vraiment comme normaliser son poids. Puis un peu, c'est un peu comme toute lutter contre les personnes qui vont avoir des commentaires contre lui pour essayer de le protéger de
ben, c'est de loin. Ouais, c'est de lui bâtir un bouclier aussi, c'est ça. Tu sais, mm-hmm. Dans le fond, vous pourrez pas... vous ne pourrez pas le protéger nécessairement de ces commentaires-là. On le sait que les commentaires à l'égard de l'apparence physique, ça reste la source numéro un d'intimidation à l'école, puis c'est encore très, très, très présent. Là, moi, les choses que j'entends des fois à l'école, là, puis je me dis, oh mon Dieu, mais ça n'a pas de sens. Donc, en consultation, même pas par rapport à mes filles, là, moi, les enfants que je rencontre ou les parents que j'ai rencontrés, des fois, vont me raconter un épisode. Puis l'épisode a déboulé, là, que le petit garçon, là, il a voulu se faire des muscles, puis là, il se mettait à s'entraîner dans le sous-sol, puis il voulait mieux manger, puis il avait 8 ou 9 ans. Puis je me disais, mais tu sais, on ne devrait pas avoir ces préoccupations à cet âge-là. Puis c'est parti de un commentaire, pas de 12 commentaires, puis pas d'une intimidation. Souvent, c'est arrivé une fois. Fait que la raison pour laquelle on veut essayer de sensibiliser à cette diversité-là, à les commentaires sur l'apparence des autres, c'est non. Autant chez les enfants que chez les adultes. Et ça, justement, on essaie tranquillement, nous à la maison, quand ils sont petits, de venir mettre ça en place, mais de quand même les prévenir, de venir bâtir le plus possible leur bouclier pour que quand ça va arriver, comme je disais, que ça va, c'est sûr que ça, je veux dire, ça peut quand même les atteindre, mais que tranquillement, ça ne viendra pas tout affecter leur estime de soi parce qu'ils vont savoir qu'ils sont plus qu'un corps. Ils ont été valorisés, puis ils sont. Puis comme je disais, des fois, le corps va servir à faire aussi beaucoup de choses. Là, c'est ce qu'on essaie de venir mettre de l'avant.
Puis tu sais, ultimement, là, au-delà de ça, là, mettons justement que notre enfant, il est gros, il est plus gros que les autres. Puis là, on se dit en tant que parent, tu sais, oui, je comprends bien là, qu'on veut normaliser le fait qu'il y a des corps différents. Mais si on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose que je fais au niveau des habitudes de vie, justement, qui sont peut-être pas optimales. Est-ce que mon enfant mange trop? Est-ce qu'il mange pas assez bien? Donc, c'est sûr que les parents vont continuer d'avoir une préoccupation à l'égard de ça, dans la mesure où c'est sûr que... d'être gros ou d'avoir un surplus de poids peut finir par avoir des effets sur la santé. Ça, c'est un fait, on s'en cachera pas. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, toi, tu dirais aux parents, tout simplement, travailler sur l'estime de vos enfants, c'est sûr qu'ils font comme, OK, ouais, mais après...
Non, ouais. Mais non, puis c'est sûr qu'en consultation, de toute façon, on revoit les bases de l'alimentation aussi.
Familiale, c'est ça.
Oui, oui, mais exactement. Mais moi, je leur dis quand même toujours, quand ils viennent me voir au départ, puis que c'est pour une raison de poids, je leur dis, tu sais, moi, le poids de votre enfant, pour moi, n'est pas un problème. Moi, je vais venir valider que vous avez... Moi, là, dans le fond, là... Peu importe le format corporel de votre enfant. Qu'on se retrouve avec nos petits en bas de la courbe, que des fois, on a l'impression qu'ils ne mangent pas assez puis qu'il faudrait donc les faire manger plus versus ceux qui se retrouvent dans l'eau des courbes. D'après moi, ils doivent trop manger, fait qu'il faut qu'on essaie de les faire descendre. Moi, mes recommandations nutritionnelles n'ont rien à voir avec le format corporel de vos enfants. Je vais venir évaluer comme j'évalue tous les enfants et on va venir essayer de mettre en place une structure parce que je l'ai dit plus tôt, mais apprendre l'alimentation, c'est un apprentissage. Puis cet apprentissage-là, il va se faire dès les premières bouchées jusqu'à l'adolescence en développant différentes compétences au travers de l'enfance puis de l'adolescence. Et c'est ça qui est important. Parce que justement, si pendant l'enfance, quand son corps est en plein changement, c'est normal que votre enfant, il va prendre du poids. Si votre enfant ne prend pas de poids, là, ça peut être inquiétant. Si votre enfant, si on pense aux courbes aussi, puis moi, ça, c'est une autre des questions que je pose toujours. Si j'ai un enfant qui est au 95e percentile de poids, par exemple, puis là, tu sais, on vient me voir parce qu'il est dans le haut des courbes. OK, votre enfant, depuis qu'il est né, là, il était où? Il a toujours été au 95e. Et voilà. Mais je ne vois pas pourquoi moi, je ne peux pas changer ça. C'est sa courbe. L'important, c'est qu'ils suivent sa courbe. Parce que le but des courbes, c'est pas de tout emmener nos enfants au 50e percentile. C'est illogique. Comme être humain, on n'est pas tous la même grandeur, la même grosseur. C'est, tu sais, je veux dire, la diversité, elle est faite pour être ça aussi. Mais ceux qui se retrouvent dans les deux extrêmes des courbes, bien souvent, on va essayer justement, puis on va dire « Ah, il doit avoir quelque chose à régler ». Pas nécessairement. Puis ça, encore une fois, on a des études, puis on le voit, les enfants qui se retrouvent dans le haut des courbes, là, ils mangent pas plus que les autres enfants. Ils sont là parce que, de façon génétique, ils sont faits justement pour être là. Puis moi, ça arrive régulièrement que la taille est pas mal aussi là, là. Je veux dire, ils sont au 95e percentile de taille. Il y a pas, tu sais, je veux dire, on s'inquiète pas de ça, mais il est au 95e percentile. Fait que moi, je leur dis... Tu sais, moi, je vais venir évaluer puis je vais venir m'assurer que l'alimentation est optimale pour que votre enfant il puisse développer des saines habitudes alimentaires puis qu'il puisse aussi maintenir une relation saine avec tous les aliments au travers de tout ça. Par contre, je le sais que votre enfant, il y a une chose auquel il est plus à risque et c'est tout ce qui est justement de la discrimination et de la stigmatisation à l'égard du poids. Puis ça, je vais venir leur donner des outils parce qu'on le sait qu'après ça, là, ça va venir affecter leur habitude de vie. Quand ils vont arriver à l'adolescence, c'est des enfants qui vont, des ados qui vont vivre beaucoup plus d'insatisfaction corporelle qui peut éventuellement se transformer en trouble alimentaire. Fait que c'est sûr que je leur dis, moi, je suis contente que vous vous retrouviez pas dans mon bureau, mais devant moi parce que je vais pouvoir aussi vous parler de ça parce que de plus en plus, on réalise avec les études, quand on parle justement du poids, c'est vrai, on le voit, là, bon, les gens qui sont dans des corps plus gros puis qui ont des poids plus élevés vont en effet, peuvent en fait développer plus de problématiques au niveau de la santé, mais on réalise qu'il y a beaucoup de ces problématiques-là, il y a un gros enjeu au niveau de la stigmatisation, de la discrimination que ces gens-là vont vivre. Fait que moi, je veux, comme je disais, que l'enfant soit le mieux possible dans son corps, que son corps ne soit pas un problème pour qu'il apprenne à prendre soin de soi, qu'il soit capable de reconnaître ses signaux, qu'il soit capable de développer ses propres préférences alimentaires, peu importe le format de son corps. C'est pas vrai qu'un enfant qui est dans un corps gros devrait sentir mal ou devrait dire « Ah, oh, mais moi, faut pas que je mange trop de gâteaux. » Mais non, il n'y a pas à se soucier de ça. Son corps va lui dire s'il en a assez ou s'il n'en a pas assez. C'est ça que je vais lui apprendre, peu importe le format du corps de vos enfants. Mais comme je leur dis toujours, c'est vrai qu'il y a un risque. Puis le risque est beaucoup, comme je disais, au niveau de la stigmatisation, la discrimination qui peut venir vivre dans toutes les sphères, mais beaucoup ne veulent pas, dans tout ce qui est social, école. Puis on va essayer de leur fournir les outils pour qu'ils puissent s'épanouir, puis comme je disais, développer une relation saine avec leur corps et aussi avec, avec la nourriture.
Ouais. Avant de passer au prochain sujet, je vais faire une petite parenthèse. Tu parlais des courbes de croissance.
Oui.
Puis, le garçon de ma soeur, il est tout petit, là, mais nous, on est tout petits dans notre famille. Là. Ma soeur, elle mesure 4 et 11. Il est comme dans le 5e percentile, mais comme en début de courbe. Puis, tu vois, il a été soumis à des examens là, pour voir si tout était normal, tu sais, parce que c'est le protocole. La médecin de famille à mon neveu était comme... Oui, bien, je m'imagine bien que c'est parce que c'est de famille, mais il y a un protocole à suivre. Donc, elle envoie passer des examens. Comme, mais c'est sûr qu'il est petit parce que c'est génétique. Là, fait ouais. Qu'effectivement, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Là. C'est plus quand il y a des changements au niveau des courbes. Que,
ouais. Puis c'est correct, exact. T'sais, moi, je le dis des fois, je dis, moi, c'est correct. Ah, ben c'est correct. Quand il n'y a pas d'acharnement non plus, là, tu sais, qu'on fasse en effet passer des tests juste pour être sûr, en effet. Il n'y a pas aucune problématique qui expliquerait un retard de croissance ou à l'inverse, comme je disais, une prise de poids qui va être plus grande. Mais après ça, ben là, comme j'expliquais, l'objectif, c'est qu'ils développent des saines habitudes de vie pour plus tard, qu'ils apprennent à devenir l'expert d'eux-mêmes. Mais comme je dis, c'est un apprentissage. Fait qu'il faut leur laisser se rendre jusque-là. Mais comme je disais, c'est de penser à l'impact que ça va avoir, justement, qu'un enfant de 5 ans a déjà internalisé le fait que son corps ne correspond pas aux standards de la société, puis que, hey, quand ça commence à 5 ans, puis tu sais, je veux dire, vous le voyez vous-même, là, moi, c'est aussi une des raisons qui m'a fait switcher à aller avec les enfants, c'est le nombre d'adultes que j'avais dans mon bureau, quand j'entendais les histoires, puis qui me disaient, ben tu sais, moi, ça a commencé à 5 ans, ça a commencé à 8 ans, ça a commencé, puis je me disais, ça n'a pas de sens. Fait que moi, je me dis, j'aimerais ça que ça commence juste pas. Fait que c'est pour ça que moi, je suis contente, même si des fois, je dis, tu sais, je comprends pourquoi le pédiatre vous a référé, puis c'est correct qu'on va venir s'assurer, mais je leur dis toujours, pour moi, le poids de votre enfant n'est pas un problème. Puis si, à la limite, il y a un décrochage de courbe, là, on va venir voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut avoir expliqué ça dans les comportements alimentaires, mais souvent, là, c'est pour regarder les habitudes de vie, puis la vie en général, tu sais, des fois, il s'est passé, là, on ne se le cachera pas, on sort d'un 2 ans de pandémie, les courbes de croissance des enfants, on a vu une prise de poids, comme les adultes, on n'a plus de courbe de croissance, là, mais on a vu quand même qu'il y a une prise de poids qui s'est peut-être un petit peu accélérée parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Fait que moi, je leur dis, là, on va laisser une certaine normalité. Tout le monde reprend. Les jeunes aussi reprennent beaucoup leur vie. Fait que là, l'objectif, c'est pas de leur taper sur la tête puis de leur dire que, mon Dieu, t'as pris du poids beaucoup trop rapidement. Fais confiance à ton corps, il va retrouver son équilibre. Là, toi, ta job, c'est de retrouver ton équilibre physique et mental, là. De retrouver une façon d'être bien dans cette vie-là qui reprend plus normalement, là.
Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore adressé, mais j'imagine que les gens s'en doutent un peu avec le discours que tu as depuis le début de l'épisode, mais il faut faire beaucoup attention aux commentaires qu'on a parce que c'est pas rare que le réflexe parental, encore une fois, teinté de bienveillance, de dire comme « Ah, mange pas trop de ça » ou comme « Faudrait que tu fasses attention à ce que tu manges » ou « Bouge un petit peu plus, là, ça va te faire du bien », tu sais. Tout ce genre de commentaires-là, il faut essayer de s'abstenir. Puis nous, en fait, ça fait très bien le point avec le prochain sujet, c'est que nous, notre rôle, c'est ce qu'on va leur offrir, comme tu disais aussi, le modèle qu'on va être. Donc, avec ça, j'aimerais qu'on parle du partage des responsabilités, qui est un principe qui est hyper important dans l'alimentation famille, finalement, qu'on inculque dès l'introduction des solides chez le nourrisson. Donc, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes ateliers là, sur la DME notamment. Mais je suis en train de me former aussi un peu plus par rapport à la nutrition famille. Puis, j'ai réalisé à quel point c'était pas juste important chez les tout-petits, mais que c'est un principe finalement qui suit un petit peu toute la nutrition en lien avec la famille pendant plusieurs années. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi le partage des responsabilités puis pourquoi c'est aussi important dans la nutrition.
En fait, tu l'as dit, là, le partage des responsabilités, puis je comprends même pas comment ça se fait que c'est pas dans le mieux vivre puis qu'on n'en parle pas plus. Parce que moi, quand j'en parle en consultation, c'est toujours au départ, là, c'est la base de notre approche, c'est la base de comment on va venir intervenir. Puis après ça, chaque famille va trouver sa façon de venir le mettre en place. Mais en fait, c'est un principe qui a été élaboré par Ellen Satter, qui est une nutritionniste américaine et aussi psychothérapeute. Puis ça fait plus de 30 ans là, tu sais, qu'elle travaille là-dessus. Elle a son institut maintenant à son nom. Il y a beaucoup de recherches, puis il y a beaucoup d'ateliers, puis plein de services qui sont offerts avec ça. Le partage des responsabilités, en fait, là, comme je le disais, c'est vraiment la base, c'est une structure qu'on vient mettre en place, tu l'as dit, dès les premières bouchées, mais qui va évoluer selon l'âge de l'enfant. Le partage des responsabilités à l'adolescence n'est pas du tout la même chose qu'avec un enfant de 2 ans, puis même avec un enfant de 8-10 ans, c'est pas la même chose. Mais reste que le principe de base est quand même la même chose, c'est-à-dire que le parent a des responsabilités dans l'alimentation de la famille et l'enfant a ses responsabilités, c'est-à-dire que le parent est responsable du quoi, du quand, du où, du comment, du comment, et l'enfant est responsable du si et du combien. Et ça, c'est hyper important de le respecter. Ellen Satter, elle compare ça à 2 voies sur l'autoroute avec une ligne pleine dans le milieu. Si le parent s'en va pour essayer d'aller prendre en charge les responsabilités de l'enfant, mange une petite bouchée de plus, goûte à ça, tu vas voir, c'est bon. Faut que tu manges tes légumes si tu veux pouvoir avoir la prochaine étape du repas. Ça, oui, vas-y, Vanessa, je te vois.
Je veux juste préciser, parce que c'est peut-être aller rapidement pour les personnes qui connaissent rien, là. Dans le fond, c'est que l'enfant est responsable de la quantité qu'il va manger.
Oui, exactement. Le contenu, c'est ça. Exactement. Fait que, dans le fond, c'est que s'il y en a un des deux qui transgressent, ben là, il y a des accidents, là, je mets des guillemets quand je dis accident, mais là, ça veut dire des enfants qui peuvent commencer à être plus sélectifs. Ça peut venir affecter justement leur rythme de croissance. Fait que ça peut venir, si je prends le contrôle du combien, puis ça, la science est super claire. Si vous essayez de faire manger plus un enfant qui, selon vous, ne mange pas suffisamment, ultimement, peut-être qu'à court terme, ça fonctionne, mais à long terme, on voit que les enfants deviennent plus sélectifs et qu'ils mangent moins en quantité, fait que ça peut affecter la croissance. Et même chose à l'inverse, un enfant qui, selon nous, comme parents, mange trop, ça n'a pas de sens, les portions sont trop grosses, puis qu'on essaie de limiter, bien ça aussi, à court terme, ça fonctionne. Et à long terme, l'enfant se met, parce qu'on déconnecte les enfants de leurs signaux de faim, leurs signaux de satiété. Tous les êtres humains vont tous naître avec trois compétences innées. Celle du désir de manger, le, tu sais, je veux dire, le fait d'aller vers les aliments, d'avoir un intérêt. Ça, si on ne l'avait pas, on n'existerait toutes plus parce que l'être humain serait mort bien assez vite s'il n'avait pas appris à se nourrir. Fait que ce désir-là, il est là. La capacité de réguler leurs apports nutritionnels selon leur niveau de faim, selon l'appétit et selon les ce qu'ils ont envie de manger aussi, là, selon leur rassasiement aussi. Donc, ça aussi, c'est une autre des capacités. Puis la troisième capacité, puis celle-là est super importante, c'est la capacité de grandir comme la nature l'a déterminé. Fait que votre coco ou vos cocos sont sortis de votre ventre, puis ils ont déjà tout le mode d'emploi, ils ont déjà toutes les étapes, puis il y a déjà un poids, une grandeur, puis il y a, tout ça, c'est déjà prédéterminé. Après ça, ma job de parent, c'est de pouvoir permettre à mon enfant de préserver ces capacités-là. Puis je le dis, là, puis on en parle souvent, les enfants ont la capacité de réguler leurs apports alimentaires, mais ils ont besoin de nous pour être capables d'apprendre parce que c'est juste rendu à l'âge secondaire à partir de 12, 13, 14 ans qu'ils vont prendre conscience de leurs signaux, qu'ils vont réaliser « j'ai faim, je vais aller me nourrir ». Avant ça, ils ont besoin de vous pour mettre justement de l'avant cette structure-là du quoi, du quand, du où, du comment. Fait que moi, je leur apprends en gardant en tête que c'est moi qui gère le quoi. Mais dans le quoi, je vais m'assurer qu'ils sont exposés à une variété d'aliments. Je vais m'assurer que mon attitude est neutre, peu importe l'aliment que je présente. Tu sais, c'est une autre chose des fois qui n'est pas toujours évidente, mais que je vais essayer d'avoir la même attitude, peu importe l'aliment qui est déterminé. Mais c'est moi qui prédétermine qu'est-ce qu'il y a de disponible ce matin au déjeuner, qu'est-ce qu'il y a de disponible pour le lunch. Plus ils vont grandir, plus je vais demander qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Est-ce que je sers juste ce qu'ils ont envie de manger? Non, parce que si je fais ça, je ne leur permettrai pas de pouvoir découvrir un maximum et d'apprendre à manger une variété. Ils ont besoin de vous pour les exposer justement à de la variété dans leur alimentation. Ils ont besoin de vous pour mettre le cadre. Ça, c'est hyper important. Là, le fait d'offrir à manger aux enfants à peu près à toutes les 2 à 3 heures dans la journée, il va y avoir une collation ou un repas qui va être offert à l'enfant. J'attends pas qu'il vienne me voir pour me dire qu'il a faim. C'est moi qui va venir mettre cette structure-là de l'avant, comme je mets de l'avant une structure au niveau des siestes puis du sommeil de mon enfant et d'autres, la gestion des écrans, par exemple. On met de la structure, bien, c'est la même chose au niveau de l'alimentation. Il faut que j'ai un horaire fixe. Bien, je dis fixe, qui reste flexible quand même, là, mais c'est ce qui permet à l'enfant de pouvoir se réguler parce qu'il sait, il y a la sécurité que son parent est là puis qu'à toutes les 2 à 3 heures, il va lui offrir quelque chose à manger. On va s'assurer qu'il y a de la variété, on fait des combinaisons pour que l'enfant apprenne. Mais je le dis, c'est un apprentissage, là. Fait que ça prend plusieurs années avant qu'il apprenne à développer. Tu sais, des fois, j'ai des parents qui vont me dire « Ouais, mais là, tu sais, si je le laisse faire, tu sais, il va toujours vers, mettons, les barres. Il va jamais vers les fruits. » Mais non, mais souvent, puis « Ah, oh, mais tu sais, il n'est pas capable de se faire une assiette équilibrée. » C'est normal qu'il ne soit pas capable. Il a besoin de vous, puis il n'y a pas à se soucier de ça non plus. Je ne m'attends pas à ce qu'un enfant de 8 ans, oh, est-ce que j'ai mes légumes? Est-ce que... Non, est-ce qu'il y a assez...
La moitié d'assiette avez... en légumes, un corps protéiné.
Non, c'est ça. Est-ce que vous lui avez appris, vous avez mis la diversité de l'avant, puis vous le laissez sélectionner justement ce que lui a envie de manger, puis vous faites confiance comme parent que vous avez mis assez de variété sur la table pour qu'il puisse se sentir encore une fois en sécurité. Il sait qu'il y a des aliments qui vont le nourrir puis qu'il va pouvoir évoluer au travers de ça. Mais le partage des responsabilités, c'est une chose sur laquelle on vient travailler comme je disais, dès le début, parce que si ça, c'est pas nécessairement bien installé, c'est sûr là, qu'il peut y avoir des problématiques au niveau de l'alimentation, puis il peut y avoir plus de défis. Fait que c'est là qu'on essaie vraiment de venir mettre. Mais moi, je l'explique toujours aux parents. Je dis, voici, c'est quoi? Après ça, là, vous, comme je disais, vous allez trouver votre formule. Puis il y a autant de formules que de familles. Fait que c'est selon nos valeurs, selon notre réalité, selon notre culture. On n'est pas obligé de faire le repas au centre de la table quand on parle justement du quoi, puis mettez la variété de l'avant. C'est sûr que ça peut être un gros plus parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup d'enfants que ça fonctionne bien. Est-ce que je suis obligée de le faire? Non, il y a d'autres façons quand même que vous pouvez mettre le partage des responsabilités de l'avant. Mais selon comment vous avez envie d'évoluer, puis si votre formule, elle fonctionne, changez rien. Mm-hmm. Votre enfant a du plaisir à venir s'asseoir à table, vous voyez qu'il découvre, puis changez rien. À partir du moment où vous vivez des petits défis, c'est là qu'on dit, mais là, on peut essayer des nouvelles choses, puis qu'on va venir vous proposer des choses à changer. Mais tant que ça fonctionne bien, moi, je le dis toujours, ça sert, tu sais, je veux dire, si vous ne voyez pas l'intérêt de changer votre formule parce que vous vivez bien avec ça, ben c'est pas moi qui va venir vous dire qu'il faut que vous changez votre façon de faire, là.
Okay. Puis tu voulais dire mettre le repas au centre de la table. Dans le fond, c'est tous les aliments. Puis que,
là, j'allais dire, Mel, t'es bien enthousiaste puis bien passionné, ça paraît, mais là, tu vas sur certains concepts.
Ah, ça se peut, oui, je m'excuse.
Mélissa, comme elle disait tantôt, elle a un podcast qui est destiné à l'alimentation famille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous aurez l'écouter, qui se nomme...
C'est les nutritionnistes en pédiatrie, le balado.
OK, fait que, tu sais, elle est comme habituée de parler de ce sujet-là, mais pour le monde qui écoute nous, c'est des sujets qu'on n'a jamais abordés.
Fait qu'effectivement... On a fait 4 épisodes sur le partage des responsabilités.
Oh, c'est ça.
c'est dur en 10 minutes.
Comme Sab l'a dit, j'aimerais que tu reviennes un peu plus précisément sur deux choses, mais commence avec le repas au centre de la table là, que tu nous as balancé comme ça en deux phrases.
Ouais. Ben, en fait, c'est parce que c'en est un qu'on entend beaucoup parler, nous, puis qu'on va venir mettre beaucoup, beaucoup de l'avant. C'est qu'en fait, le repas au centre de la table, là, c'est un peu le principe, bien pas un peu, mais dans le fond, c'est qu'au lieu de le parent fait l'assiette puis donne l'assiette à l'enfant, bien on va venir proposer tous les aliments dans le centre de la table. On va venir mettre nos chaudrons, nos plats de service directement sur la table et on va inviter l'enfant à faire son assiette. Donc, ça met son autonomie de l'avant dès le début. Dans la phase du 2 à 4 ans, là, c'est souvent... veut pas, beaucoup de parents vont vivre le défi de la néophobie alimentaire, il y a l'affirmation de soi au travers de tout ça, puis là, tout d'un coup, les enfants se mettent à devenir très, très, très sélectifs, et là, les parents ne savent plus quoi faire parce que, mon Dieu, mais il mangeait super bien, puis là, il ne veut plus rien manger. Fait que des fois, c'est une des stratégies qu'on va dire, bien, venez l'essayer. Pourquoi est-ce qu'on va venir proposer ça? Comme je disais, d'un, ça met l'autonomie. Fait que c'est l'enfant qui détermine qu'est-ce qu'il met dans son assiette. C'est lui qui détermine les quantités aussi qu'il va venir mettre dans son assiette. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que l'enfant, même s'il ne l'a pas mis dans son assiette, il y a quand même une exposition à cet aliment-là. La plaque d'asperge est devant lui. Est-ce qu'il est prêt à la manger? Peut-être pas. Mais le fait qu'elle soit là versus qu'elle est en cuisine, bien, il apprend à faire connaissance tranquillement avec les asperges. Puis éventuellement, peut-être qu'il va se sentir prêt parce que, justement, il y a cette exposition-là. Mais il y aurait plein de raisons pour lesquelles, comme je disais, le repas au centre de la table n'est pas nécessairement pertinent. Si on a des enfants qui sont très hypersensibles au niveau des odeurs en particulier, bien, des fois, juste voir quelque chose, ils ne voudront pas venir s'asseoir à la table. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a autant de formules que de famille, fait que vous allez venir ajuster. Mais moi, je l'ai adopté. En début de pandémie, on l'a plus... Quand il était plus petit, je le faisais pas nécessairement. Puis en début de pandémie, on a plus mis ça de l'avant. Fait que, tu sais, quand je vous dis qu'il n'est jamais trop tard aussi, puis, tu sais, moi, les miennes avaient 8 ans en début de pandémie, là. Fait que je le faisais pas nécessairement quand il était petit. Mais c'est quelque chose que je viens souvent proposer sans que vous le fassiez nécessairement tous les soirs, mais c'est vraiment pour venir remettre l'enfant au centre de ses décisions. Puis c'est ça le partage des responsabilités. Tu sais, moi, je suis là pour mettre la variété de l'avant. Fait que c'est pour ça que j'aime ça le repas au centre de la table parce que vous mettez tout dès le départ sur la table. Vous pouvez même mettre l'aliment dessert, là, que ce soit un fruit, un yogourt, un muffin. Vous mettez tout ça et là, vous laissez l'enfant naviguer. Voici ce qui est disponible ce soir, plutôt que de vous relever 8 fois pendant le souper, à essayer peut-être de trouver quelque chose. Puis j'en avais une, il n'y a pas longtemps, que tu sais, il ne réussissait jamais à manger en même temps que les enfants parce que, tu sais, il venait s'asseoir, là, il y en a un qui était déjà rendu à son dessert, il se relevait pour aller chercher quelque chose, là, il manquait de l'eau. Fait que là, je disais, hey, essayez-le. Juste pour, puis vous appelez pas les enfants tant que tout n'est pas sur la table. Puis vous assurez dès le départ, la bouteille d'eau est là. Comme je disais, j'aurais pas besoin de me relever 8 fois. Puis si on est capable d'être 10 minutes assis ensemble, toutes les 4, les 5, peu importe, à connecter, à profiter du repas, Puis surtout, moi, je l'ai dit aux parents, un coup que c'est mis devant eux, là, vous lâchez prise parce que votre responsabilité à vous, elle est faite. Vous, vous êtes assuré qu'il y a une variété sur la table. Vous vous assurez qu'on mange à une heure régulière. Vous vous assurez qu'on est assis à la table. Encore une fois, des fois, ça va être à d'autres endroits, mais la grande majorité du temps, on est assis dans la salle à manger. Et on s'assure du comment, on s'assure que tout le monde est en train de passer un bon moment. Après ça, c'est votre enfant, sa responsabilité, c'est de déterminer s'il mange. Puis quand on dit le « si », dans le fond, c'est quel aliment il va aller manger. Puis après ça, le combien, quelle quantité de chaque aliment il va manger. Et ça, c'est une confiance mutuelle. L'enfant apprend à faire confiance à son parent parce qu'il sait qu'il va venir mettre la variété, mais il sait aussi que son parent lui fait confiance pour découvrir à son propre rythme. Puis c'est ça qui est important.
Puis le défi, justement, en tant que parent, c'est de ne pas intervenir. Tu sais, si l'enfant ne se met pas de légumes, il ne se met pas de légumes, that's it.
Pour rien dire,
c'est si ça on laisse difficile. Se servir, mais qu'on intervient tout le temps, on passe vraiment à côté du principe. Ça, c'est important.
Exactement. Oui, ben oui, c'est exactement ça. Puis ça peut devenir une certaine pression pour l'enfant. Si à chaque fois, le parent insiste toujours, « Ah, mais il faudrait que tu mettes quelques carottes dans ton assiette. » Bien, il y a certains enfants qui, « Ah, ben oui, puis ils vont les mettre, puis c'est correct. Mm-hmm. » Mais il y a d'autres enfants, juste se faire dire ça pour eux, c'est comme une pression. Puis là, cette pression-là augmente leur sentiment de stress. Sentiment de stress, ça prend de la place dans le bedon. Fait que la connexion, signaux de faim, signaux de satiété. Et là, ça peut amener un enfant aussi à se déréguler. Fait que c'est la raison pour laquelle on trouve que c'est une belle formule. Mais comme je disais, si on ne la fait pas, il y a plein d'autres façons quand même d'intervenir de façon hyper positive, bienveillante, puis de permettre quand même de mettre l'autonomie de l'enfant de l'avant dès le début. C'est parce que ce qu'on veut, là, c'est que ça vienne de lui. Je veux que s'il décide qu'il mange une asperge ou qu'il goûte l'asperge, je veux que ça vienne de lui, que ce soit sa motivation intrinsèque, parce qu'on le sait que si ça vient d'une motivation qui est intrinsèque, ça va perdurer dans le temps. S'il le fait juste pour faire plaisir à son parent, s'il le fait pour avoir son collant sur son cahier ou son calendrier, ou s'il le fait pour avoir son dessert, c'est une motivation qui est extrinsèque. À long terme, ça ne fonctionne pas. Puis comme j'expliquais, selon le tempérament de l'enfant, moi, je donne toujours moi comme exemple, mais moi, quand j'étais petite, mon père, des fois, « Good, good, good! » C'était pas méchant, là, on n'était même pas obligé. Mais, tu sais, « Good, good, c'est bon, good! » Puis, tu sais, il y avait des fois que peut-être, moi, en m'assoyant, je me disais, « OK, là, je vais y goûter. » Il suffisait qu'il me l'ait dit pour que je fasse « Non! » Je ne goûterai pas parce que, tu sais, je veux que ce soit moi qui... Non, mais c'est ça, tu sais, je ne le ferai pas pour te faire plaisir, je voulais le faire pour moi. Fait que, tu sais, puis ça, je pense que j'étais plus vieille quand même quand j'ai cette conscience-là, mais tout ça pour dire que ça devient une pression, même si c'est hyper positif, là, ça peut devenir une pression. Comme il y a d'autres enfants qu'on va leur dire de goûter, ils vont goûter, ils vivent très bien ça, puis c'est correct. Fait que c'est pour ça, comme je vous disais, c'est vous qui êtes les experts de vos enfants. Fait que essayez juste de vous adapter en vous disant d'un que vous n'aurez pas deux formats pareils. Là, souvent, on a l'enfant qui aime de tout, qui aime découvrir, puis on a l'autre enfant qui va être plus sélectif. Puis c'est là que je dis souvent aux parents, mais vous voyez bien que, je veux dire, le problème, c'est pas vous, là. Puis le problème n'est pas plus votre enfant, là, mais c'est pas vous qui avez causé ça. C'est chaque individu aura son propre rythme de découverte et ce qu'on veut, c'est d'essayer de leur permettre d'évoluer là-dedans le plus positivement possible en leur faisant confiance et en mettant leur autonomie de l'avant. Et à la table, c'est exactement ça. Je le sais pas, moi, comment qu'il a faim, combien qu'il a faim, puis je le sais pas un coup qu'il finit le repas. Tu sais, un enfant qui dirait « Maman, j'ai-tu assez mangé? » Ben, je le sais pas. C'est comme s'il finit de faire pipi, puis il me dit « Maman, j'ai-tu assez fait de pipi? » Ben, je sais pas, moi. T'en restes-tu, t'en restes-tu pas? Mais c'est la même chose pour la nourriture, tu sais. Mais il y a des, tu sais, comme parents, des fois, on se dit « Mais non, mais... »
T'en restes pas.
Non, mais c'est vrai! C'est la même chose, là. Fait que c'est de l'amener, même quand ils sont petits, à venir se poser cette question-là. Puis comme je disais, c'est en venant poser ces questions-là avec les tout-petits, il sera pas 100% conscient de ça tout seul, là. C'est à l'adolescence que tranquillement, il est capable de faire cette introspection-là. Avant ça, ils ne l'ont pas. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, si on pose une petite question pour faire « je ne sais pas, ton bedon, il dit quoi? » Ben, on va voir. Puis si jamais il n'est pas plein, de toute façon, il y a une collation tantôt. T'sais, fait que c'est venir le rassurer, mais en même temps, toujours le ramener à « c'est lui qui a la réponse. » Même que votre enfant ait 2 ans, qu'il ait 3 ans, qu'il ait 4 ans, « ouais, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin de manger. » Oui, oui, ils le savent pas mal plus que vous. Vous allez le savoir. Puis en leur faisant confiance, ils vont apprendre. Des fois, ils vont trop manger. Des fois, ils vont pas assez manger. Mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre à se réguler. Puis surtout, ils vont savoir que vous leur faites confiance. Mais j'aime bien la comparaison avec le pipi. Parce que souvent, les parents font, mais c'est vrai, je ne sais pas comment il a envie. Mais ça se peut que des fois, on part pour une longue ride, puis non, j'ai pas envie. Assis-toi sur la toilette juste pour être sûr qu'il n'y aura pas un petit pipi caché. Fait que des fois, c'est ce qui fait aussi que, ouais, mais là, j'ai pas faim là. Ouais, mais là, on va prendre, je t'offre une collation quand même parce que là, on s'en va puis on ne pourra pas manger. Tu n'es pas obligé de la manger, mais je vais t'offrir quelque chose là à manger quand même. Puis des fois, l'enfant, il en mange un petit peu. Puis tu sais, c'est pour lui permettre d'apprendre à se réguler comme ça parce que après ça, comme je disais, moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Puis l'appétit peut être très, très en dents de scie. Fait que c'est pas, ah, oh, mais j'offre une collation le matin, mais il apprend jamais. Continuer quand même de l'offrir. Elle ne sera pas gaspillée. Au pire, après ça, vous remettez ça dans le frigo puis vous la réutiliserez. Mais puis même chose quand les enfants n'acceptent pas nécessairement de manger. Ouais, mais à chaque fois, je lui en offrais, il n'en veut pas. Fait que j'ai arrêté de l'offrir. Là, vous avez 100% de chance qu'il apprenne jamais à l'aimer. Désespérez pas. Planifiez les repas en fonction de vous. Vous, qu'est-ce que comme famille, comme parent, vous aimez manger? On garde nos petits soupers gastronomiques pour quand on est juste les deux, mais qu'est-ce que je veux que mon enfant apprenne à manger? C'est quoi les repas qu'on va cuisiner le soir? Bien, c'est eux que je vais cuisiner pour lui apprendre, mais garder en tête, il faut qu'il apprenne à les manger. Fait que je vais peut-être dans la façon de venir l'offrir, mais je n'offrirai pas un autre repas parce que sinon, c'est sûr que l'enfant ne pourra pas évoluer dans ses choix. Puis là, ça peut occasionner beaucoup de défis, beaucoup d'anxiété reliée au repas aussi parce que ça va devenir des ados ou des fois des adultes, mais on le voit beaucoup à l'adolescence, qui ont peur d'aller manger à l'extérieur parce qu'ils ont peur de ne pas aimer justement parce qu'ils sont habitués qu'à la maison. Tu sais, c'est toujours des trucs qu'ils connaissent, oui. Mais comme je disais, il va toujours y avoir la familiarité qui est présente parce que ça, c'est important pour le sentiment de sécurité. Mais la nouveauté continue d'être là. Puis comment je fais pour que mon enfant apprenne à manger des fruits puis des légumes? Est-ce que vous mangez des fruits puis des légumes puis vous avez du plaisir à les manger? Et voilà. Puis vous les offrez, vous les consommez vous-même, il vous voit les consommer. C'est pas mal le maximum que... Bien, maximum. Comme je disais, vous pouvez lire des livres ou on peut... Mais je peux pas y rentrer ça de force dans la bouche, là.
Oui. Puis admettons là, qu'au souper, comme tu disais, on prévoit les soupers en fonction de ce qu'on veut manger, on prévoit du poisson, tu sais, avec du riz puis des légumes, mais que l'enfant n'aime pas ça puis il veut pas en manger. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter s'il ne mange pas du tout de poisson, il prend juste du riz? Comment qu'on gère ça?
Bien, là, on gère ça avec un gros lâcher-prise. Je le disais tantôt, ça prend beaucoup de lâcher-prise. Mais moi, je donne souvent mes exemples de repas. En effet, là, tu sais, moi, je fais du poisson. Je le sais que j'en ai une de mes filles qu'elle n'en mange jamais. Mais en même temps, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va peut-être se décider à vouloir y goûter. Puis nous, ça fait partie des repas quand même que moi, je trouve très pratiques. Puis moi, il y a eu une période aussi où... Des fois, je voyais des recettes puis je me disais, je ne peux pas faire ça avec les filles, ils ne voudront rien manger. Fait que, tu sais, je m'empêchais d'essayer des fois des nouvelles affaires ou de faire certaines recettes en me disant, ben là, tu sais, ils vont juste chialer, ça ne me tente pas, non, non, non. Maintenant, j'ai complet. Pardon?
On achète la paix, comme on dit.
Ben oui, mais c'est ça. On n'a pas le goût de se chiter, on fait bon, ça va être encore un souper de. Fait que j'ai été longtemps à voir des recettes en me disant, ah ouais, mais je ne peux pas faire ça, là, elle n'aime pas ça. Là. Puis là, à un moment donné, je suis comme, attends un peu, là. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que sinon, on est tanné. Qu'est-ce qu'on mange? Un pâté chinois, du spaghetti, ça revient toujours au même souper. Fait que maintenant, bien, on a certaines recettes qui reviennent. Il y a des recettes que les filles aiment là-dedans. Il y a toujours une. Tu sais, moi, je planifie 3-4 recettes, puis le reste, c'est un peu de l'improvisation le reste de la semaine. Mais dans les 3-4 recettes, il y a toujours une à deux recettes que les filles vont aimer manger. Puis avec les lunchs aussi, il y a des choses que je vais réussir à venir passer dans les lunchs qu'il n'y aura pas nécessairement au repas. Mais tu sais, ma fille, elle mange des sandwichs au thon 2-3 fois, ben pas par semaine, mais mettons une à deux fois par semaine, mais je vais lui donner du poisson à table. Je pense qu'elle a, tu sais, exemple de la truite, là, elle mange du poisson blanc, mais de la truite ou du saumon, elle n'en a jamais, elle en a peut-être déjà mangé, mais quand même très rarement. Moi, je mets la truite sur la table, le riz est là, il y a toujours une salade, je vais mettre le plat de fruits, les biscuits, parce que nous, les desserts font partie de notre routine familiale, fait que les biscuits sont là. Après ça, là, moi, qui mets quoi dans son assiette, ils se gèrent. Et c'est sûr qu'ils sont plus vieilles, là. Mais même quand ils étaient petites, ça a toujours été ça. Si à la limite, c'était dans l'assiette, ils le savaient, je ne mettais pas un gros morceau, t'es pas obligé de le manger. Puis des fois, elle en prenait, des fois, elle n'en prenait pas. Mais c'est cette confiance-là de faire, ben moi, je ne change pas le menu, voici ce qu'il y a à manger. Puis, tu sais, des fois, c'est le riz, le riz, le riz. Ben oui, des fois, elle a mangé juste du riz puis de la salade, mais on a passé un beau moment. Fait que, tu sais, moi, ultimement, c'est là-dessus que j'essaie de focusser. On essaie de passer un beau moment ensemble, puis quand elle se sentira prête. Et je le sais, comme je disais, comme parent, qu'au fil du temps, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas mangé de légumes ou ils n'ont pas mangé de viande ce soir que, oh mon Dieu, demain matin, ils vont se lever avec une carence quelconque. Une carence, ça s'installe sur une longue période et, tu sais, on parle vraiment là, d'une alimentation qui va être très, très peu diversifié. Là. Fait que nous, quand on évalue, là, moi, j'ai toujours un questionnaire de fréquence, puis je regarde quel aliment est mangé dans chacun des groupes, puis on est capable de voir quand même qu'ultimement, les enfants réussissent à aller chercher quand même un petit peu. Est-ce qu'ils mangent toujours du poulet? Non, mais c'est vrai que quand on fait cette recette-là, ça, c'est un hit, ils en mangent tout le temps. La viande dans le spaghetti, ils en mangent, la viande, tu sais. Fait que après ça, là, quand on regarde ça, l'enfant, il va réussir, lui, à aller chercher ce qu'il a de besoin, en s'assurant qu'il y a de la variété qui est offerte. Puis ça aussi, il y a des études qui avaient été faites, même chez des petits bébés, où on offrait de la variété. Puis tu sais comment dire à quel point le corps est bien fait. On réalisait, sans nécessairement que les bébés étaient en carence, mais s'il y avait des niveaux sous-optimaux de certains nutriments, bien, ils allaient davantage vers les aliments qui contenaient ces aliments-là. Fait que tu sais, quand on parle d'alimentation intuitive pour l'adulte, puis on dit... Si vous réapprenez à écouter votre corps, c'est pas vrai que vous allez manger juste du gâteau parce qu'à un moment donné, votre corps, il va avoir besoin d'autre chose puis il va vous le dire qu'il a envie de manger autre chose. C'est la même chose pour les enfants. Fait que c'est pour ça que nous, on dit focusser sur la variété. Parce que si, en effet, à un moment donné, il y a peut-être une carence qui est en train de s'installer, c'est peut-être ça qui va faire que là, votre enfant va finir par y aller vers l'aliment. Mais ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de persévérance parce que ça risque d'être long avant qu'ils apprennent, comme je disais, à aimer puis à accepter tous les aliments. Mais les nutriments ont réussi, comme encore une fois, à aller les chercher dans une alimentation qui est diversifiée. Puis même un enfant qui ne mange pas nécessairement de viande, comme je disais, on est capable d'aller chercher les nutriments dans d'autres. Tu sais, souvent, les noix sont là, les œufs sont là. Les légumineuses aussi, des fois, vont être dans certaines recettes. Fait que, ultimement, oui, on le sait, ça va être plus long à apprendre à aimer tout ce qui est viande. Tout ce qui est légumes aussi, là, c'est un goût qui est un petit peu plus amer, fait que c'est moins inné. Ça va prendre plus de temps, mais je vais continuer à l'exposer pour qu'il puisse, quand il va être prêt, je le sais pas, c'est-tu à 8 ans, c'est-tu à 12 ans, c'est-tu à 25 ans, j'en ai aucune idée. Mais au moins, il va avoir été exposé et, ultimement, il va apprendre, justement, à se faire confiance puis peut-être à écouter quand il va se sentir prêt.
J'aurais une dernière question, moi aussi, oui. pour clore l'épisode. Mais dans un contexte où, justement, on veut remettre dans les mains de l'enfant le rôle de la quantité. Mettons qu'on sert un souper puis que l'enfant décide qu'il ne mange rien. Là, ça ne lui tente pas, il ne mange pas. Mais qu'une demi-heure après le repas, ben là, il aurait faim pour une collation. Mais nous, dans notre setup familial, mettons que le souper est prévu vers 18h puis que l'enfant se couche à 19h, 19h30, ben il n'y a pas de collation de soirée. Ouais. Fait que là, nous, comme parents, on se dit « Caroline, je veux pas qu'il se couche puis qu'il aille faim. » Fait que, tu sais, comment qu'on gère ça? Puis souvent, ça peut être récurrent lors du souper. Je sais que les enfants, ben sont fatigués. Fait que pour plusieurs familles, moi, je le vis pas encore nécessairement, mais je le vis différemment, en fait, parce que mon coco, il est tout petit. Mais je sais que pour plusieurs familles, lors du souper est particulièrement difficile. Donc, si l'enfant décide qu'il mange pas, puis qu'une demi-heure après, il tourne autour puis il dit « J'ai faim, j'ai une collation, je veux ci, je veux ça. » Toi, tu te dis, crème, il n'y a pas de collation normalement le soir. Si je me mets à donner des collations, il ne voudra plus souper. Fait que comment qu'on gère ça?
C'est une excellente question. Parce que, tu sais, je vous ai parlé tantôt du camp. Fait que c'est vous qui demeurez responsable, justement, de quand est-ce que vous allez offrir. Mais je l'ai dit tantôt, on essaie aussi d'être le plus à l'écoute et sensible aux besoins de notre enfant. C'est la raison pour laquelle on va autant focusser à dire, venez offrir de la variété, pour éviter, comme je disais, qu'un enfant vraiment se retrouve à ne rien manger. Habituellement, là, s'il y a du riz, il y a un légume, il y a une viande, il y a un plat de fruits, puis comme je disais, vous avez mis un dessert, c'est un yogourt ou c'est un muffin maison ou c'est des biscuits du commerce, peu importe, OK? Ça, c'était déjà tout sur la table, puis l'enfant, habituellement, là, il va réussir, peut-être qu'il va manger 2-3 morceaux de cantaloupe, 3 cocombes, puis ses 2 biscuits. Ça, il les a mangés. Puis... Fait qu'il a peut-être pas mangé beaucoup, mais reste quand même qu'ultimement, il a pas complètement fait la grève de la faim. Parce qu'un enfant qui va complètement faire la grève de la faim, comme je disais, là, c'est soit parce qu'il se passe autre chose, là, comme je disais, s'il y a zéro faim, là, il faut venir revoir. Est-ce qu'il y a une collation qui a été prise trop tôt? Est-ce que je vais venir justement réajuster mon horaire de repas là, pour venir s'assurer? Mais l'enfant qui reviendrait 30 minutes après, là, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vous. qu'aller justement faire « ouais, c'est vrai, tu n'as pas beaucoup mangé tantôt. » Ben est-ce que tu voudrais... Mais c'est vous, encore une fois, qui déterminez qu'est-ce que vous pourriez offrir. Puis, il y a d'autres soirs que vous pourriez décider aussi de dire « ben là, l'heure du souper est terminée, on sait c'est l'heure du dodo. » Donc, mais en effet, moi, c'est sûr que, tu sais, quand mes filles me disaient... Nous, là, il y a, en fait, puis encore aujourd'hui, on dit, hein, il n'y a jamais eu de collation après le souper. Mm-hmm. Parce que j'ai jamais ressenti qu'il en avait besoin d'une parce qu'il ne me réclamait pas à manger après le souper. Mais si éventuellement ça l'arrive puis que ça devient récurrent, bien là, je vais dire aux parents, bien là, vous pouvez le mettre à votre horaire. C'est vous qui allez déterminer le bon moment dans votre routine familiale. Puis exemple, parce que normalement, on va dire, s'il y a plus qu'une heure et demie entre la fin du souper et l'heure du dodo, ça peut être pertinent de mettre à l'horaire une collation. Mais si on sait, en effet, des fois que l'enfant, bon, au souper, on voit que c'est plus difficile, il est plus fatigué, moins tendance à manger, je pourrais... Parce que les collations, là, c'est aussi une occasion d'explorer les aliments. Fait qu'encore une fois, c'est vous qui allez être responsable du choix que vous mettez là. Moi, des fois, je dis quand c'est proche du souper, vous pouvez des fois avoir gardé certains aliments du repas puis venir lui réoffrir peut-être un 30 minutes plus tard. Puis sinon... Pardon?
Un petit morceau de poulet avant d'aller te coucher.
Ben, en même temps, c'était dans le fond, comme je disais, tout dépendant le délai. Moi, je le disais, là, des fois, tu sais, mettons, s'ils reviennent 15-20 minutes après, puis là, vous pouvez le dire aussi, quand ils se lèvent, on va leur dire, t'es certain, ton bedon est bien rempli, parce que tu le sais, hein, on ne remange pas avant demain matin, si on n'avait pas prévu justement qu'il y avait de collation. Puis si ultimement, il y en a une, on va dire, ben, t'es sûr, t'es correct, parce que la collation, c'est quand on va sortir du bain, fait que ça va être juste dans 40-45 minutes. Mais si l'enfant, il sait que vous l'offrez, il sait à un moment donné qu'il n'a plus nécessairement besoin de venir la demander. Puis, comme je disais, il arriverait, c'est pas privé à votre horaire, vous pourriez dire, ben OK, ben là, si tu veux quelque chose, voici ce qui est disponible. Puis là, c'est vous qui offrez, et non pas qu'est-ce que tu veux manger. Si vous tombez dans le « qu'est-ce que tu veux manger », ça finit plus, puis là, c'est de la négociation, puis ça devient plus compliqué. Fait que profitez-en, sans que ce soit nécessairement le poulet. Tu sais, si je le sais que c'était pas nécessairement son repas préféré, venir y réoffrir ça. Des fois, il peut peut-être dire oui, parce que là, justement, il a faim, il peut faire « OK, ben je vais y goûter ». Fait que moi, je le dis toujours, encore une fois, tu sais, prenez pas pour acquis qu'il ne mangera pas. Réoffrez-le. S'il vous dit non, par exemple, vous pouvez après ça venir, OK, tu voudrais-tu un petit yogourt, tu veux-tu un fruit, tu sais, ça reste quelque chose qui ne sera pas nécessairement trop lourd, mais qui en même temps ne l'empêchera pas de s'endormir, parce que la faim peut l'empêcher de s'endormir, puis là, on ne sera pas plus avancé. Mais la réponse, comme je le disais tantôt, c'est vous comme parent, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon de faire, puis c'est pas non, j'avais pas prévu de collation, tu ne manges pas. On ne veut pas que ce soit rigide. On veut que votre enfant, il sente qu'il peut vous faire confiance puis que vous allez vous ajuster, mais qu'en même temps, comme j'expliquais, il faut qu'il apprenne à se nourrir à l'heure des repas. Fait que c'est un travail d'équipe que vous allez faire avec lui pour que ultimement là, il apprenne à naviguer dans tout ça. Là.
Vraiment intéressant. J'aurais continué à jaser.
Oui, on aurait pu jaser de ça bien longtemps.
Hey, ben, merci, Mel. Super intéressant. Merci d'avoir pris de ton précieux temps pour venir jaser avec nous. Si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver?
Ben, mes réseaux sociaux, dans le fond, c'est J'aime Love Nutrition, là, donc J'M Love Nutrition. Instagram, Facebook, j'ai un site internet aussi. Puis sinon, comme je disais, je fais aussi partie de l'équipe des nutritionnistes en pédiatrie. Là, fait que c'est une autre façon aussi de me contacter.
Cool. Eh bien, merci beaucoup, les filles.
Merci à toi. Salut.
Bye.
Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!